Julie de l'Espinasse, lettre à M. de Guibert. Lettre 12. Dimanche au soir, 1er août 1773. Vous êtes trop aimable, vous me surprenez en bien. Il est ravissant d'avoir un plaisir sur lequel on ne comptait point, et je suis charmée de vous devoir un mouvement qui fait du bien à mon âme. J'avais reçu hier une lettre de vous du 18. J'étais bien contente de voir que les dates se rapprochaient, que vous n'y mettiez plus 15 jours d'intervalle, et que je ne devais pas ce changement au regret que je vous avais marqué. C'était à vous, c'était à votre amitié. J'aime bien mieux ce qu'elle me donne que ce que j'en obtiendrai. Je voulais vous remercier, vous dire faiblement ce que je sens bien vivement. Et j'ai été plus heureuse encore. J'ai reçu une autre lettre de vous aujourd'hui, du 18. Mon premier mouvement, je ne sais pourquoi, a été la crainte. L'habitude du malheur gâte tout. Mais j'ai été bientôt rassurée. Je vous ai trouvé bon, sensible, près de mon âme. Il me semblait que je devais m'applaudir d'avoir souffert, puisque ma douleur vous avait intéressée. Oh, de combien de regrets vous remplissez ma vie! Je jouirais de votre amitié, elle ferait ma consolation, elle ferait mon plaisir, et vous êtes à 1000 lieues. Je ne saurais me défendre de la crainte que tant d'objets nouveaux, qu'une vie aussi occupée et aussi dissipée que celle que vous êtes forcée de mener, ne détruise ou du moins n'affaiblisse une liaison et un intérêt auquel il a manqué peut-être le degré de chaleur qui en fait un besoin du cœur ou le temps qui en fait une habitude. J'avoue que je mets bien peu de prix à ce dernier lien. C'est le sentiment de ceux qui n'en ont point. Mais voyez la funeste disposition de mon âme. Je m'occupe de craintes, de regrets, lorsque je devrais jouir des témoignages et des preuves de votre amitié. Elle est bien douce, elle est bien indulgente, cette amitié. Vous me pardonnez toute mon injustice. Je vous ai accusé 1000 fois, mais en même temps, je ne me suis jamais repenti de m'être livré à vous par la confiance la plus intime. Il est impossible avec vous d'avoir à se reprocher une méprise, et par là on est à l'abri des grands malheurs. Car, remarquez que toutes les tragédies sont fondées sur une méprise, et que presque tous les malheurs ont la même cause. Mais ne me punissez donc pas d'avoir été injuste en ne me parlant plus de ce qui m'intéresse. Dites-moi tout ce que vous éprouvez, et je vous promets de le partager et de vous dire encore l'impression que j'en recevrai. Je vous aime trop pour pouvoir m'imposer la moindre contrainte. Je préfère avoir à vous demander pardon que de ne point faire de faute. Je n'ai plus d'amour-propre avec vous, et je n'entends point toutes ces règles de conduite qui font qu'on est toujours content de soi et qu'on est si froid avec ce que l'on aime. Je hais la prudence. Je hais même, souffrez que je vous le dise, ces devoirs de l'amitié qui font substituer la discrétion à l'intérêt et la délicatesse à la sensibilité. Que vous dirais-je? J'aime l'abandon. Je n'agis que de premier mouvement, et j'aime à la folie qu'on soit de même avec moi. Ah, mon Dieu, que je suis loin de vous valoir. Je n'ai point de vertu, je ne connais point de devoir avec mon ami. Je me rapproche de l'état de nature. Les sauvages n'aiment pas avec plus de simplicité et de bonne foi. Le monde, le malheur, rien n'a pu corrompre mon cœur. Je ne serai jamais en garde contre vous. Je ne vous soupçonnerai jamais. Vous dites que vous avez de l'amitié pour moi. Vous êtes vertueux. Que puis-je avoir à craindre? je vous laisserai voir le trouble et l'agitation de mon âme, et je ne rougirai point de vous paraître faible et inconséquente. Je vous l'ai déjà dit, je ne prétends point à vous plaire. Je ne peux point usurper votre estime. J'aime mieux mériter votre indulgence. Enfin, je veux vous aimer de tout mon cœur et avoir pour vous une confiance sans réserve. Non, je ne vous crois pas fin, et je pense, comme vous, que la finesse est toujours une preuve de disette d'esprit. Mais je vous crois bien bête lorsque vous n'entendez pas ce qu'on vous désigne clairement, qu'importe le nom. Il suffit qu'il ne puisse pas gâter ce que je vous ai dit de la personne. Ce qui m'étonne, c'est que je vous l'ai nommé 20 fois. Cela me prouve ce que je ne croyais pas, que je prononce son nom comme celui d'une autre. Mais ce qui m'étonnerait bien plus encore, ce serait si vous veniez à ne pas le distinguer des autres. Cependant, je vous assure qu'il n'est pas fait pour rester dans la foule. Vous verrez. J'ai vu aujourd'hui le chevalier d'Aguesseau. J'étais fière de pouvoir lui donner de vos nouvelles. Avec les autres personnes qui sont en droit d'en attendre, j'aurais eu un sentiment tout contraire. J'aurais craint de leur paraître plus heureuse qu'elles et de vous faire accuser. Car la plupart des femmes n'ont pas besoin d'être aimées. Elles veulent seulement être préférées. Le chevalier d'Aguesseau m'a dit qu'il allait vous écrire et vous demander des nouvelles. Pour moi, je ne m'intéresse qu'à une seule, et je voudrais bien pouvoir vous la mander. Je serais bien aise de revoir le chevalier de Châtelux. Mais cependant, si j'avais pu ajouter à son voyage ce que je voudrais retrancher du vôtre, je ne le verrais pas si tôt. Voyez, je vous en prie, combien je renverse l'ordre de la chronologie. Il y a 8 ans que j'aime le chevalier. Je suis bien aise que vous mettiez de l'intérêt dans votre voyage. Je désire même que vous y trouviez du plaisir. Mais ce que je veux, par-dessus tout, c'est que vous regrettiez les gens qui vous aiment. Je voudrais que la Turquie, la Hongrie et l'univers ne vous fissent pas oublier que vous manquez à leur bonheur. Et je voudrais encore que vous revinssiez dans la résolution de ne point les quitter au moment où ils commenceront à jouir du charme de votre amitié et de votre société. Adieu. Je ne vous ai pas dit que je suis malade comme une bête, mais mon âme est moins souffrante. Ainsi, je ne dois pas me plaindre. Faites que j'ai à me louer de votre caractère et vous serez bien aimable. Lettre 13. Dimanche 8 août 1773. Voyez quelle folie d'aller vous chercher, d'aller vous attendre à Breslau. Vous y serez occupé du roi, des troupes, de votre succès, etc., etc., et rien ne vous portera à jeter vos regards vers Paris. J'ai tort, Paris est bien grand, mais vous m'y laisseriez dans la foule. Cependant, croyez-moi, il y a peu, mais très peu, et si je ne craignais de vous affliger, je vous dirais, il n'y a personne qui vous regrette plus sincèrement que moi. Tout le monde est occupé ou dissipé. Moi seul, je crois, ne saurais perdre de vue ce qui m'afflige ou ce que je désire. Je ne sais pas comment on fait pour s'accoutumer aux privations. Celles qui touchent l'âme sont si sensibles. Elles n'ont point de dédommagement. Je ne conçois point qu'il n'y ait pas encore 3 mois que vous êtes parti, et je conçois bien moins encore comment il faudra vous attendre jusqu'à la fin de novembre. Votre présence ne pourrait que me consoler, et je la regrette comme mon plaisir. Ah, l'amitié, ce bienfait de la nature, est donc un nouveau malheur pour moi. Tout ce qui affecte mon âme en devient le poison. Vous étiez pour moi une connaissance si aimable. Votre ton, vos manières, votre esprit, tout me plaisait. Un degré d'intérêt a tout gâté. Je me suis livré au bien que vous me faisiez. Ah, pourquoi avez-vous pénétré dans mon âme? Pourquoi me montriez-vous la vôtre? Pourquoi établir un commerce intime entre deux personnes que tout sépare? Est-ce vous ou est-ce moi qui suis coupable de l'espèce de douleur dont je souffre? Quelquefois, je suis arrêtée sur le désir que j'ai de votre retour, parce que je crains que vous n'affligiez mon amitié. Cependant, elle sera bien peu exigeante. Vous serez tellement occupé, dissipé et entraîné qu'à Paris même, vous serez peut-être plus loin de moi qu'à Breslau. Songez donc à tout ce que vous aurez acquis auprès des gens qui aiment par air et par désœuvrement. Vous viendrez de si loin, on s'intéressera tant à ce que vous aurez vu, on sera si charmé de vous voir, de vous entendre, qu'il n'y aura pas moyen de vous dérober à tant d'empressement. Eh bien, soit. Je ne vous verrai guère et je vous attendrai souvent. C'est quelque chose. D'ailleurs, quand on est honnête et sensible, on revient souvent où l'on est toujours attendu. Je voudrais en être là. Mais au moins, n'êtes-vous pas dans l'intention d'abréger plutôt que de prolonger votre voyage? Que verrez-vous de mieux, de plus intéressant que ce que vous voyez en Silésie? Et puis, si vous n'avez pas le soin d'écrire de Suède, si vous attendez d'avoir reçu des lettres, vous voyez bien qu'on sera 3 mois sans entendre parler de vous. Et ce n'est plus là être absent, c'est être mort. Quand vous seriez condamné aux mêmes privations, vous en souffririez moins. D'ailleurs, c'est votre faute. Vous vous y êtes soumis en partant, et vos amis n'y ont pas donné leur consentement. En un mot, soit justice, soit générosité, je veux avoir de vos nouvelles. Et il n'y a ni raison ni prétexte qui puisse vous autoriser à être jamais aussi longtemps sans m'écrire que vous l'avez été de Prague à Vienne. Songez que vous devez beaucoup à ma situation. Je suis malheureuse, je suis malade. Voyez si cela ne sollicite pas votre vertu. Ce qu'elle m'accordera sera payé d'une reconnaissance infinie. Mon Dieu, le pauvre motif et le pitoyable sentiment, ne trouvez-vous pas? J'ai lu ces jours passés l'extrait d'un éloge de Colbert qui concourt à l'Académie française. Cet extrait m'a paru d'un ton si ferme, si noble, si élevé, si original, que tout à coup, j'ai désiré qu'il fût de vous. Je ne sais si le reste de cet ouvrage en serait digne, mais vous ne désavoueriez pas le peu que j'en ai vu. J'ai eu la fièvre tous ces jours passés. La dernière fois que je vous ai écrit, j'ai fini ma lettre en tremblant le frisson. Il y a un certain courrier qui, depuis un an, donne la fièvre à mon âme. Mais elle avait gagné ma mauvaise machine. Je me sens détruite, et j'ai toujours été si malheureuse que j'ai quelque chose qui me dit que je mourrai au moment où mon malheur pourrait finir. Revenez, et du moins je serai sûre d'avoir goûté, avant de mourir, une consolation bien douce pour mon âme. Je me reproche d'avoir été injuste avec vous. Mon Dieu, si vous avez souffert, vous m'aurez pardonné. Il y a des situations qui demandent tant d'indulgence. J'ai lu le livre si attendu de M. Helvétius. Je suis effrayée de sa grosseur. 2 volumes de 600 pages chacun. Votre voracité en viendrait à bout dans 2 jours. Mais moi, je ne saurais lire avec intérêt. Mes affections retiennent toute mon attention. Je lis toujours ce que je sens, et non pas ce que je vois. Ah, mon Dieu, que l'esprit s'amoindrit en aimant. Il est vrai que l'âme n'y perd rien. Mais que fait-on d'une âme? J'oubliais de vous répondre sur l'affaire du comte de C. Elle est un peu plus reculée que lorsqu'il en a eu la première pensée. Vous ne pouvez croire quel pauvre homme est celui dont dépend cette affaire. Il n'est pas bête, mais c'est le plus sot de tous les hommes. Sa femme vaut mieux, mais l'occupation où elle est d'elle-même absorbe toutes ses facultés. En tout, ce sont des gens dont le vrai mérite est d'avoir un excellent cuisinier. Que de gens dont on dit du bien qui n'ont aucune valeur. Non, l'espèce humaine n'est pas méchante, elle n'est que sotte, et à Paris elle est aussi vaine et aussi frivole que sotte. Mais qu'importe, pourvu que ce qu'on aime soit bon, aimable et excellent. Ah, si vous saviez ce qui amuse, ce qui attache le public. Une tragédie de M. Dorat. Elle est dénuée d'esprit, d'intérêt et de talent. Et puis encore une comédie de M. Dorat. C'est le chef-d'œuvre du mauvais goût et du mauvais ton. C'est un jargon inintelligible. Enfin, les applaudissements qu'on donne à cela m'avaient réellement attristé l'autre jour. Cela est fait pour décourager le talent. Lettre 14. Dimanche, 15 août 1773. Mon Dieu, écoutez-moi, et une fois pour toutes, croyez que je ne puis pas avoir tort avec vous. Et vous savez bien pourquoi je ne puis pas avoir de tort. Je n'ai donc point eu de négligence, puisque, depuis le 3 juillet, voilà ma cinquième lettre. Le 15, le 26, le 1er août, le 6 ou le 7, et aujourd'hui. Je n'entends pas pourquoi le 3, vous n'aviez pas ma lettre du 15. Je ne puis pas me faire aux irrégularités de la poste. Elles font le tourment de ma vie. Mais vous m'étonnez, vous, d'y mettre autant d'importance. Comment donc votre âme peut-elle suffire à tout? Je ne fais qu'une seule chose, et j'en meurs de fatigue et de douleur. Cette citation des regrets de ce père, à propos de mes lettres, est bien charmante. Est-ce avec de l'esprit qu'on pénètre si avant dans une âme sensible? Non, votre esprit me plairait, mais il ne me toucherait pas. Comment avez-vous pu penser que j'ai formé le projet de vous inquiéter? Eh, bon Dieu, où aurais-je trouvé cette sotte confiance? Vous punir? Et de quoi? En supposant, ce qui n'est assurément pas, que je fusse mécontente de votre amitié, est-ce que je serais en droit de me plaindre? Et ne serait-ce pas le comble de l'impertinence d'aller imaginer que mes lettres seront une privation sensible pour vous? Si je vous dis que je ne suis pas si sottement vaine que la plupart des femmes, vous ne serez pas obligé de m'en croire. Mais connaissez-moi mieux, et vous verrez que je reçois à titre de grâce tout ce qu'on veut bien m'accorder, que j'en jouis avec sensibilité, que j'y réponds avec toute la tendresse et la sincérité de mon âme. Mais jamais je ne me sens animé de cette sorte de confiance qu'on ne trouve point dans son cœur, mais bien dans l'amour-propre, qui fait exiger de ce qu'on aime, et qui ose, quelquefois, le mettre à l'épreuve. L'usage du monde n'a point altéré la simplicité et la vérité de mes sentiments. Remarquez que je ne me loue pas, je me défends. Je suis fâchée et inquiète de votre mal à la jambe. Vous ne l'aménagerez pas, quoi que vous en disiez. Et voilà de quoi je suis inquiète plus que de votre mal. Mon Dieu, que vous avez bien raison. Il n'y a rien de si froid et de si plat que de ménager ses amis. Hélas, le grand malheur de l'absence, c'est de trop ignorer tous les détails qui les touchent. En disant beaucoup, on laisse encore tant à désirer. Il me semble que mon ami omet toujours ce que j'ai besoin de savoir. Mais pourquoi donc vous excéder de fatigue? Le manque de sommeil épuise la tête. Et quelque forte que puisse être la vôtre, je suis assurée que lorsque vous avez passé la nuit, vous tirez un moins bon parti des choses et des objets que vous voulez observer. Sans compter que vous risquez d'affaiblir votre santé. Pour arriver au but que vous vous proposez, il faut non seulement vivre, mais se bien porter. Pour s'exalter l'âme au point de tout sacrifier à l'amour de la gloire, je crois qu'il est bon de conserver son estomac. Ah, si vous saviez combien les souffrances physiques rapetissent l'âme. Je vous réponds que vous ne prodigueriez pas, comme vous le faites, votre sommeil et vos forces. Je vous parle là une langue bien triviale, mais c'est celle de l'amitié. Remarquez que les personnes qui aiment à plaire ne disent pas un mot de tout cela. Le ton de l'intérêt est sans grâce, il est pesant, il se répète, mais il n'ennuie pas lorsqu'on le sent pour quelqu'un qui le mérite si bien. En effet, il ne tiendrait qu'à moi de croire que l'inquiétude où vous étiez, lorsque vous m'avez écrit, troublait un peu votre jugement. Vous me pressez de vous écrire sans me dire où il faut adresser le mal-être. Je sais que vous n'êtes plus à Vienne depuis le 12 au plus tard, et cependant je vous y écris. Cela n'a pas le sens commun. Ce qui, je crois, ne l'a pas davantage, c'est de vous avoir écrit à Breslau. Mais pourquoi donc, lorsqu'on fait le tour du monde, conserver le besoin d'entendre parler de ses amis? Ah oui, vous êtes bien inconséquent. En vérité, il y a des moments où je me sens si lasse que je suis toute prête à vous laisser en chemin. Je suis si malade, je suis si triste, qu'il me semble que ce serait vous servir que de me laisser tout à fait oublier. Plus vous avez de bonté, plus vous êtes sensible, et plus j'ose vous répondre que vous vous repentirez souvent de vous être livré trop vite à une liaison dont l'avantage devait être pour moi. Il y a un article dans votre lettre sur lequel mes yeux ne pouvaient s'arrêter et mon âme semblait s'y attacher. Mon Dieu, quels mots vous me prononcez! Mon sang se glace. Non, non, mon âme ne chercherait plus la vôtre. Ah, cette pensée me fait mourir. Soyez ma consolation. Calmez, s'il est possible, le trouble de mon âme. Mais gardez-vous de penser que je puisse survivre un instant à un malheur dont la seule crainte remplit ma vie d'un effroi qui a détruit ma santé et qui trouble sans cesse ma raison. Adieu. Je ne saurais continuer. Je me sens le cœur serré. Si je puis me distraire, je reprendrai, car j'ai à me justifier et à vous demander pardon, quoique je ne sois pas coupable. Toujours dimanche. J'ai été tenté de vous avertir que j'avais dit cette phrase sur le roi de Prusse, qui était charmante, et que je crus pouvoir répéter sans inconvénient. Elle fut trouvée comme elle est, et elle fut répétée tant et tant, qu'elle alla jusqu'à Madame du Deffand, qui la trouva très mauvaise, qui la retourna, qui la commenta, et qui éprouva sur son avis mille contradictions. Enfin, elle finit par dire que, quand vous auriez fait Athalie avec le connétable, cela ne l'empêcherait pas de trouver le fond et la forme de cette pensée détestable. À quelques jours de là, elle en parla à l'ambassadeur de Naples sur le même ton. Cela l'impatienta, et il lui dit que, lorsque l'on voulait critiquer, il fallait au moins citer de bonne foi, et qu'en changeant les termes de cette phrase, il trouvait encore sa critique aussi sévère qu'injuste. Madame de Luxembourg, Madame de Beauvau, devant qui cela se passait, et qui était contre Madame du Deffand, demandèrent à l'ambassadeur s'il pourrait avoir une copie de cette phrase. Il la leur promit. Il vint me conter toute cette sotte dispute. et j'avoue que le plaisir de confondre Madame du Deffant me fit céder à la prière de l'ambassadeur. Je lui fis copier ces trois lignes, et il s'en alla triomphant. Alors Madame du Deffant fut confondue, ou du moins, elle n'osa plus dénigrer ce que tout le monde trouvait charmant. Jusque-là, il n'avait pas été question de savoir à qui vous l'aviez écrite. Elle s'avisa de le demander. L'ambassadeur s'y refusa. Elle n'en eut que plus de curiosité. Il lui dit que c'était à moi, et il ajouta « C'est à coup sûr par pressentiment que vous avez dénigré quelque chose qui est plein d'esprit et de grâce. » Voilà un long récit. Je vous l'aurais conté dans le temps, mais c'est que cela me parut pitoyable, transporté à 400 lieues. Il faut ajouter que l'ambassadeur me rapporta cette copie qui fut brûlée. Et puis voyez quelle sottise occupe les gens du monde, quel vide cela prouve. Oui, le malheur est bon à quelque chose. Il corrige de toutes ces petites passions qui agitent les gens oisifs et corrompus. Ah, s'il pouvait aimer, il deviendrait bon. Vous voyez, après cela, si je suis coupable d'indiscrétion, et si vous me le dites, je le croirai. Mais ne me dites point qu'on croira que nous nous écrivons pour faire de l'esprit, etc. Et que nous importe ce que les sots ou les méchants croiront. Ils ne sont forts que parce qu'on les craint. Je les hais, je les fuis, mais je ne les crains plus. Depuis quelques années, j'ai tellement apprécié ceux qui jugent que je n'oserais pas vous dire le mépris que j'ai pour l'opinion. Je ne voudrais pas la braver, mais voilà tout. Il y a une passion qui ferme l'âme à toutes les misères qui tourmentent les gens du monde. J'en fais la triste expérience. Un grand chagrin tue tout le reste. Il n'y a qu'un intérêt, qu'un plaisir, qu'un malheur, et qu'un seul juge pour moi dans toute la nature. Oh non, je n'ai point de petitesse. Songez que je ne tiens à la vie que par un point. S'il venait à m'échapper, je mourrais. D'après cette disposition intime, profonde et permanente, vous croirez sans peine que tout est anéanti pour moi. Je ne sais par quelle fatalité ou par quel bonheur j'ai été susceptible d'une affection nouvelle. En me recherchant, je n'en saurais trouver ni expliquer la cause. Mais quelle qu'elle soit, ses effets mettent de la douceur dans la vie. Il me paraît inouï que mon malheur ait pu vous intéresser. Cela me prouve la bonté, la sensibilité de votre cœur. Je me reproche à présent les remords que j'ai eus en me livrant à mon penchant pour vous. Le malheur rend sévère envers soi-même. Je me croyais coupable du bien que vous me faisiez. Est-ce à présent? Était-ce alors que je me faisais d'illusions? En honneur, je n'en sais rien. Mais vous, dont le malheur ne bouleverse pas l'âme, vous me jugerez, et quand je vous verrai, vous me direz si je dois m'applaudir ou m'affliger du sentiment que vous m'inspirez. J'ai reçu hier des nouvelles qui m'alarment. Sa santé ne saurait se raffermir. Il est toujours menacé d'un accident funeste et dont il a été deux fois à l'agonie depuis un an. Voyez s'il est possible de vivre. Adieu. Donnez-moi de vos nouvelles. Lettre 15, lundi 16 août 1773. Je rouvre ma lettre pour vous dire combien je suis pénétrée de la bonté que vous avez d'être aussi inquiet de n'avoir pas reçu de mes nouvelles. Je n'en conçois pas la raison, car ce sont mes amis qui ont été chargés de remettre mes lettres à la grande poste. Monsieur d'Alembert a reçu hier votre lettre du 6. Je me suis chargée de vous répondre, et je ne vous dirai jamais à quel point je suis fâchée et bien aise de vous avoir donné de l'inquiétude. Si j'avais tort, je serais désolée. Mais pourquoi donc avez-vous renoncé à aller dans le nord? Je ne puis pas croire que ce soit uniquement pour abréger le temps de votre voyage. À qui donc faites-vous le sacrifice de la Suède? Si on l'a exigé, vous êtes content. Le mouvement de cette personne vous a déjà payé. Enfin, si votre retour est avancé, j'aime la personne ou la chose qui en est cause. Mais l'année prochaine, il faudra encore aller en Russie. Et puis, ne faudra-t-il pas tout à l'heure aller à Montauban? Et puis les campagnes? Et puis celles où vous trouverez le plaisir et où vous chercherez le bonheur? Et puis... Mais n'importe, tout cela vaut mieux que la Suède. Et je ne sais, quelque chose me dit que je ne dois pas m'inquiéter de ce qui arrivera l'année prochaine. Comme vous le disiez, on a le temps de mourir 100 fois. Mais pourquoi n'est-ce pas à moi que vous avez dit que vous abrégiez votre voyage? Je l'aurais su un jour plus tôt. Vous m'avez fait un reproche. J'ai envie de vous le rendre. Est-ce vous qui êtes coupable de ce que me mande le chevalier de Châteaulux? Il prétend que je vous aime beaucoup. Comment le sait-il? Je n'ai mis que vous et celui à qui je dis tout dans mon secret. Lui auriez-vous écrit? Si cela était, j'aurais à vous remercier et à me plaindre. Monsieur d'Alembert est dans ce moment-ci chez Madame Geoffrin. Je ne doute pas qu'elle ne se fasse un plaisir d'écrire au roi de Pologne. Savez-vous bien qu'on pourrait mettre sa vanité à vous louer et à vous aimer? Mais surtout, n'allez pas croire que ce soit ce mouvement qui m'ait porté vers vous. Et que cela serait frêle. J'espère qu'avant de partir pour Vienne, vous aurez été accablé de mes lettres jusqu'au dégoût. N'oubliez pas que vous avez à m'accuser la réception de 5 en comptant celle-ci. Vous seriez bien aimable si vous répondiez à toutes mes questions. Mais vous manquez de temps et peut-être de confiance. Quant à moi, qui ne manque ni de facilité ni d'indulgence, je vous pardonnerai. Il me semble que dans cette longue lettre que je vous ai écrite, j'ai omis un article assez curieux. C'est ma santé. Elle est détestable. Je tousse à mourir, et avec assez d'efforts pour cracher le sang. Je passe une partie de ma vie sans pouvoir parler. Ma voix est éteinte, et c'est de toutes les incommodités celle qui convient le mieux à la disposition de mon âme. J'aime le silence, le recueillement, la retraite. Je ne dors point ou presque point, et je ne m'ennuie jamais. N'allez-vous pas croire que je suis heureuse? Si j'ajoutais que je ne changerais pas ma situation pour celle de qui que ce soit dans le monde, vous me croiriez en paradis. Vous auriez tort. Pour y aller, il faut être morte. Et voilà ce que je voudrais être. Mais venez et écrivez-moi beaucoup, beaucoup. Lettre 16. Ce 22 août 1773. J'ai reçu hier votre lettre du 10. Elle m'a fait du bien. Si vous saviez tout ce que j'ai souffert depuis 8 jours, combien mon cœur a été navré de douleur, dans quels troubles, dans quelles alarmes je consume ma vie. Je n'ai plus la liberté de m'en délivrer. Cela m'est affreux, et il n'est pas au pouvoir de ce que j'aime de faire cesser mes maux. Il les sent, il en souffre. Il est encore plus malheureux que moi, parce que son âme est plus forte, a plus d'énergie et de sensibilité que la mienne. Depuis 1 an, tous les moments de sa vie ont été marqués par le malheur. Il en mourra, et il veut que je vive. Ô mon Dieu, mon âme ne peut pas suffire à ce qu'elle sent et à ce qu'elle souffre. voyez ma faiblesse. Voyez combien le malheur rend indiscret et personnel. Je vous occupe de moi, je vous attriste peut-être. Ah, pardonnez-le-moi. Cet excès de confiance vient de mon amitié, de ma tendre amitié pour vous. Vous m'avez déjà marqué tant de bonté et d'indulgence qu'il me semble que je n'en peux plus abuser. Hélas, si vous souffriez, qui est-ce qui le sentirait et qui le partagerait mieux que moi? Vous voyez dans mon âme, vous voyez ce qu'elle est pour vous. Et je le sens au comble du malheur, en invoquant la mort à chaque instant, vous me coûteriez un regret. Vous me consolez, et cependant, je succombe sous le poids de mes maux. Et non, c'est que ce ne sont pas les miens qui me déchirent, ce sont ceux de mon ami pour lesquels je n'ai ni remède, ni consolation. Voilà le supplice d'une âme sensible et dévouée. Vous avez aimé, vous m'entendrez, vous me plaindrez. Mais voyez combien l'on saisit avidement ce qui fait espérer quelque soulagement. D'après ce que vous aviez mandé à M. d'Alembert, je comptais vous voir à la fin de septembre, et vous ne seriez ici qu'à la fin d'octobre. Mais au moins y serez-vous? Hélas, je ne sais si je puis me permettre d'espérer jusque-là. Je vous parle peut-être pour la dernière fois. Concevez-vous la situation où je suis? Je n'ose me permettre ni projet ni espérance. Ah, j'avais beaucoup souffert de l'injustice et de la méchanceté des hommes. J'en avais été réduite au désespoir. Mais il le faut avouer, il n'y a point de malheur comparable à celui d'une passion profonde et malheureuse. Elle a effacé 10 ans de supplice. Il me semble que je ne vis que depuis que j'aime. Tout ce qui m'affectait, tout ce qui m'avait rendue malheureuse jusque-là, s'est anéanti. Et cependant, aux yeux des gens calmes et raisonnables, je n'aurai de malheur que ceux que je ne sens plus. Ils appellent les passions des malheurs factices. Hélas, c'est qu'ils n'aiment rien. C'est qu'ils ne vivent que de vanité et d'ambition. Et moi, je ne vis plus que pour aimer. Je ne suis plus au ton ni au sentiment de la société. Il y a bien plus. Je serai incapable de remplir aucun devoir. Mais heureusement, je suis libre, je suis indépendante. Et en me livrant tout entière à ma disposition, je n'ai point de remords, parce que je ne manque à personne. Mais voyez le peu de cas que vous devez faire de moi. Je me reproche souvent la bonté et l'estime qu'on me montre. J'usurpe beaucoup dans la société. On me juge trop favorablement parce qu'on ne me connaît point. Il est vrai aussi que j'ai tellement été victime de la calomnie et de la méchanceté de mes ennemis que c'est une sorte de dédommagement que j'éprouve à présent. J'ai été interrompue par l'arrivée du chevalier de Châteaulux, qui est entré dans ma chambre sans se faire annoncer, et je le croyais à Ferney. Je lui ai dit que j'étais bien aise de son retour, mais mon cœur n'en sentait rien. Il n'a pas un instant suspendu ma douleur. Je sentais seulement qu'il me privait de vous écrire. C'est cependant ce qu'on appelle un ami. En effet, je m'intéresse à lui, mais il ne peut rien pour mon bonheur. Mon Dieu, peut-être que mon âme est fermée à jamais à ce sentiment. Si cela était, que faire de la vie? Je m'en remets à vous pour faire cette épreuve. Venez, mais cela me fait peur. Ah, si mon âme venait à rester à froid, je serais désolée. Et vous, y seriez-vous sensible? Auriez-vous assez de bonté pour regretter mon plaisir? Mais sans doute, au moment où je vous verrai, vous serez encore tout occupé de celui que vous aurez senti en revoyant ce que vous aimez. Convenez que ce jour-là, vous serez plus éloigné de moi que vous ne l'êtes de Breslau. Mon Dieu, cela est juste, pourvu que lorsque vous serez calme, vous reveniez à moi, je serai trop heureuse. Je suis non seulement contente, mais encore pénétrée de ce que vous m'accordez. Je ne sais même si j'y réponds. Qu'en pensez-vous? Lequel de nous est en reste? En jugeant par ces situations, il me semble que l'avantage serait pour moi. Le malheur dispose bien plus à l'amitié et à la tendresse que la vie que vous menez. D'ailleurs, toutes choses égales, n'êtes-vous pas mille fois plus aimable et plus digne d'être aimé? Mais venez, il y a des jours, il y a des moments où mon âme est tellement absorbée que je crains de ne pas vous aimer assez. Souffrez que je vous fasse un reproche. Votre confiance manque à mon amitié. Vous ne me dites plus rien de vous. Pourquoi cela? J'ai été injuste une fois, je le sais. M'en puniriez-vous? Comment, si vous aimez, n'avez-vous rien à me dire? Vous souffrez, vous espérez, vous jouissez. Pourquoi ne m'en dites-vous rien? Vous me parlez si peu de vous que vos lettres pourraient presque aller à toutes les femmes que vous connaissez. Il n'en est pas de même des miennes. Elles ne peuvent avoir qu'une adresse. Voyez si j'ai tort. Est-ce trop exigé que l'égalité dans la confiance? Voici la quatrième lettre dont vous avez encore à m'accuser la réception. Ne l'oubliez pas. Je crois que c'est une folie de vous avoir écrit à Breslau. Vous n'aurez pas pensé à la poste et ma lettre y sera restée. Mais au moins, brûlez-vous les miennes. Je vois d'ici qu'elles tombent des paquets énormes que vous tirez de vos poches. Le désordre de vos papiers trouble ma confiance. Vous voyez qu'il ne l'arrête pas. Adieu. J'ai mal à la poitrine. Votre jambe est-elle guérie? De vos nouvelles.